6h02 exactement, lundi 19 octobre. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM. C'est un début de semaine marqué par de la pluie et du temps couvert. Et on devrait terminer, par contre, cette semaine avec du soleil. Donc, ce matin, on a pour la grande région de Montréal à peu près 13 degrés avec un ciel nuageux. Le maximum aujourd'hui, 16 degrés avec des averses qui commencent ce matin. Maximum, donc, je le disais, de 16, mais notons que les températures seront à la baisse pour atteindre 10 au cours de l'après-midi. Les averses continuent en soirée, minimum de 8 durant la nuit. Et mardi, de la pluie cessant tôt l'après-midi. Ça demeure nuageux par la suite, maximum autour de 11 degrés. Et on prévoit 5 degrés pour la nuit de mardi à mercredi. Et encore de la pluie pour mercredi avec un maximum prévu de 14 degrés. Bon, commençons ce matin par le dossier COVID. Les chiffres rendus publics en fin de semaine montrent qu'il y a une certaine stabilité qui s'installe. Par contre, ça demeure élevé. On se retrouve avec, par exemple, pour la journée de dimanche, près de 1100 nouveaux cas confirmés. Il y a, par contre, plus d'hospitalisations, une dizaine de plus. Et on le voit donc que... En tout, il y a 527 personnes atteintes de la COVID qui sont hospitalisées. Dimanche, on a également dit que 60 personnes contaminées avaient été admises en centre hospitalier et que 50 étaient sorties de l'hôpital. Ça veut dire que, grosso modo, c'est relativement stable, mais ça ne baisse pas de façon marquée. Ça, c'est le premier constat qu'on peut faire. Le deuxième, puis je vous le disais la semaine dernière, parce que je reçois beaucoup de courriels du personnel du réseau de la santé, des auditeurs aussi, concernant les cas de résidence pour personnes âgées. Puis je disais pas nécessairement les CHSLD. Bon, Radio-Canada nous apprend que la situation dans le centre Marcel-Ferron est problématique. 30 résidents, 11 employés déclarés positifs à la COVID. Donc, c'est un centre qui est situé à Brossard. Et ce serait, semble-t-il, le centre le plus touché de la province. Et là encore, c'est une bataille de chiffres. Est-ce qu'on comptabilise les gens qui sont là ou pas dans les chiffres qu'on nous donne de personnes contaminées? Jusqu'à dimanche, semble-t-il, que même, ça faisait des jours là, qu'il y avait des cas de COVID, visiblement, le fax ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on sait pas, on n'a pas été capable de rendre l'information. Il y a également deux résidences qui touchent la ville de Saint-Hyacinthe. Là aussi, les éclosions, on a pu avoir d'autres détails. 42 sur 130. Alors, vous avez la résidence Bourgeli qui est quand même pas mal touchée. Et là, ben, les gens se demandent qu'est-ce qui s'est passé. Il avait été pas mal épargné, je voyais ça hier à TVA, là, durant la première vague, mais là, plusieurs cas. Donc, comme vous le voyez, puis je peux ajouter une école aussi, l'école qui ferme, l'école primaire... c'est le pavillon Sainte-Marie de l'école primaire des Mésanges à Saint-Charles-Borromée qui va fermer pour 2 semaines. On a vu ça dans d'autres écoles aussi. Et ça touche les élèves et les membres du personnel. C'est ce qu'on appelle les procédures de prévention parce que là, on considère qu'il y a trop de cas. Et donc, on ferme ce pavillon au complet de cette école primaire. De toute façon, les parents ont été avisés. Donc, comme vous le voyez... C'est vraiment là des éclosions, beaucoup dans des endroits avec les gens les plus vulnérables, donc résidences pour personnes âgées, et aussi dans les écoles. Et ça, il fallait s'y attendre. Marie-Laurence parlait tantôt de rassemblement. Je ne peux pas croire que quelqu'un organise un mariage avec 100 personnes dans une maison puis qu'on décide de procéder quand même. Tu sais, ce n'est pas un lieu de culte, une maison. Tu peux peut-être avoir un mariage, mais tu sais, il ne faut pas charrier non plus. Mais en même temps, ce que ça traduit, c'est que d'un côté, en tout cas, si on se fie toujours aux courbes, s'il n'y avait pas eu des mesures plus strictes, ça aurait probablement grimpé pas mal plus. Je regarde en Europe des augmentations du nombre de cas. Par exemple, juste vous donner peut-être certaines mesures, en Belgique, là, les cafés et les restaurants ferment aujourd'hui pour 4 semaines. Il y a un couvre-feu qui est en vigueur de minuit à 5 heures. Parce qu'il y a une augmentation importante. Et au total, en Europe, c'est 8 000 morts recensées durant une période de 7 jours. Et parmi les autres pays qui prennent des mesures, en Italie, le premier ministre a annoncé dimanche de nouvelles restrictions concernant les bars, restaurants, l'interdiction des fêtes et foires locales et des sports collectifs amateurs, ainsi que l'extension du télétravail. En Suisse, port du masque obligatoire dans les lieux clos. Il y a aussi, dans certains pays, je pense à la République tchèque, des manifestations contre ces restrictions. Et le fameux cas de la Suède, on va y revenir un peu plus tard avec le Dr Weiss ce matin, qui avait donc en Suède une approche très différente de ce qu'on a vu dans les autres pays. Mais là aussi, on a échappé les personnes âgées durant la première vague. Et il faut dire que les Suédois ont un ratio de décès plus élevé que leurs voisins, Danemark, Finlande. C'est pas la même culture aussi. Alors, pourquoi au Québec on a tant de cas? C'est que visiblement, on a de la difficulté à respecter. Puis c'est clair, je le vois dans vos commentaires, là. Je pense que les gens sont à la fois fatigués, ce qui est normal, puis un peu frustrés de tout ça. T'sais, on est rendu au mois d'octobre, mi-octobre. T'sais, la semaine passée, le débat, c'était sur l'Halloween. Puis ça s'est même poursuivi en fin de semaine. Et là, on se dit, bon, ça va durer combien de temps? Puis là, vous avez des experts qui prétendent que ce serait étonnant qu'il y ait un relâchement avant le début de l'an prochain. Donc, vivre avec cette absence de contact, ou en tout cas, contact très limité. T'sais, hier, ou plutôt vendredi, je pense, on disait, vous savez, c'est pas un confinement. Ça l'est un peu, pas mal, beaucoup, là. Je comprends que c'est pas le confinement du printemps. Les magasins sont ouverts. Les gens peuvent évidemment travailler. Il n'y a pas eu de fermeture, là, comme l'industrie de la construction, mais chaque personne là, se fait dire de limiter ses contacts, avec raison. Mais ça peut devenir long. Et je le voyais aux États-Unis, puis même encore ce matin, un peu dans les quotidiens, des gens qui sont inquiets pour la santé mentale des Québécois. On nous rassure en disant qu'il n'y a pas eu une explosion de cas de suicide depuis le début de l'année, hein, mettons pendant la période du printemps. Mais en même temps, c'est sûr que ça peut pas nécessairement mener à l'acte ultime, là, mais à des périodes un peu plus sombres. L'autre dossier important ce matin, l'histoire de cet enseignant en France qui a été décapité. Je résume les faits, là, vous avez peut-être vu ça, mais c'est important quand même de rappeler ce qui est arrivé. Alors, ce professeur Samuel Paty donnait un cours. Et il voulait, dans ce cours, utiliser les fameuses caricatures de Mahomet. Il a pris le soin d'avertir les étudiants et étudiantes musulmanes qu'elles seraient peut-être choquées par ces images et donc qu'elles pouvaient quitter. Il ne les a pas mis dehors, contrairement à ce qu'on a dit. Il leur a offert de quitter pendant cette période-là. Alors, pourquoi il a décidé de faire ça? Parce qu'il considérait que c'était important de pouvoir, donc, présenter ces caricatures dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression. Et là, ça a dégénéré. Il y a un parent qui s'est plaint, puis il y a eu une escalade. Et là, vous avez un pseudo-imam. Je dis pseudo-imam parce qu'il est même pas mal renié par les gens de sa communauté. C'est un imam très actif, originaire du Maroc, qui est en France, je pense, depuis les années 80. Il fait partie des 11 personnes qui ont été interpellées aussi. Et donc, il interroge le père, il fait une vidéo, puis il met ça sur Facebook, en disant que c'est épouvantable. Alors, pourtant, des gens qui auraient dû allumer là-dessus, de voir cette tension, puis de voir cette vidéo, donc vers 17 heures, vendredi, les policiers découvrent le corps mutilé de cet homme, cet enseignant. On retrouve tout près de lui un autre individu qui est agité, qui se pousse. Il est rattrapé par des policiers. Là, il y a échange de coups de feu. Je dis échange, ça reste à confirmer. Mais l'homme est armé aussi d'une arme de poing. Et on a trouvé un couteau de boucher d'une trentaine de centimètres, puis un autre couteau également sur lui, en plus de l'arme à feu. Et c'est un individu originaire d'un Russe d'origine tchétchène qui, avec ses parents, avait pris la route de l'exil au début des années 2000. Depuis ce temps, il y a eu ces regroupements hier en France. On est toujours dans le procès Charlie Hebdo. Ce prof-là qui dit, ben c'est important de pouvoir discuter, de pouvoir parler de ça. C'est ça, la liberté d'expression. Sauf que remonter de l'intégrisme. Et ça a malheureusement donné lieu à des dérapages, là. Écoutez, même des gens de la gauche en France qui disent que là, c'est assez, là, qu'il y en a certains qu'on va retourner, qu'on va extrader. Et on se demande aussi le rôle des services de renseignement. C'est un geste inqualifiable, c'est une horreur totale. Et ça, quand on parle de la liberté d'expression, de la liberté de parole, c'est ça. Puis la laïcité de dire, moi, les religions, là, dans le cadre d'un cours, justement, sur la liberté, j'ai le droit de l'aborder de cette façon-là, dans un contexte. Et tous les gens qui entouraient ce prof disent que ça a été fait de façon respectueuse. Alors, c'est important de le mentionner. Entre-temps, ici, vous avez 34 professeurs de l'Université d'Ottawa qui signent une lettre dénonçant le traitement réservé à une collègue, Verouchka, lieutenant Duval, qui est accusée de racisme. Pourquoi? Parce qu'elle a prononcé dans un cours le fameux N-word, comme on dit. Vous savez très bien ce que je veux dire, là. Le 23 septembre dernier, lors d'un cours sur les identités sexuelles dans les arts visuels. Et il y a le fameux livre également, « Les nègres blancs d'Amérique » de Pierre Vallière, qui est toujours au cœur des controverses. Puis là, on sort ça du contexte historique. D'ailleurs, les professeurs y reviennent dans leurs documents en rappelant que Vallière était peut-être un de ceux qui étaient les plus inclusifs, que probablement il n'aurait pas choisi ce titre-là pour son livre aujourd'hui. Mais on ne peut pas nier le contexte historique. Alors bref, ces professeurs signent ça parce qu'évidemment, il y a une cabale partie contre le prof et la direction de l'université ne fait pas grand-chose. S'en lave les mains. Et on peut voir également sur les réseaux sociaux des appels à l'intimidation contre les professeurs, notamment les signataires de la lettre. Il y a Marc-François Bernier, qui est prof à l'Université d'Ottawa, qui va être avec nous un peu plus tard. Journal de Montréal, papier intéressant ce matin concernant les chasseurs. Alors, des gens qui avaient peur d'être intimidés, je parle bien sûr de la problématique au parc de la Vérendrye, une partie des zones là, qui sont évidemment touchées. Bref, c'est le rapport de force autour de la chasse à l'orignal. Les Autochtones qui disent le cheptel est en train de fondre, puis il faut arrêter ça. Puis les chasseurs, il y en a qui ont des camps dans ce coin-là, qui disent nous autres, on y va. Alors, puis tout le monde est armé. Donc, des chasseurs qui craignaient la violence ont fait un détour parfois d'une dizaine d'heures en voiture, il faut vouloir y aller à la chasse, pour ne pas passer face aux barricades. Et les gens témoignent un détour sur le chemin Lépine-Clova qui relie par 200 km Clova à Latuc et la route 117 dans la réserve faunique. Et ça fait 3 semaines maintenant qu'il y a des barricades où on empêche les chasseurs d'entrer ou de sortir. Puis on a rapporté aussi quelques actes d'intimidation. Et il va falloir le régler un jour, là. Tu sais, il y avait des jugements qui avaient été rendus, puis on connaît la situation extrêmement tendue avec les Autochtones. Et là, c'est un dossier pour le ministre Yann Lafrenière, qui a dit hier à la télé, à tout le monde en parle, qui était quelqu'un d'action, mais il va falloir qu'il bouge dans ce dossier-là, parce qu'on va se ramasser avec des affrontements à chaque année. Et là, vous avez des chasseurs qui disent « Hey, on veut avoir accès à notre territoire », puis les Autochtones qui disent « Oubliez ça, et on va protéger le cheptel ». Donc, dans le Journal de Montréal, vous avez tous les détails concernant ça. Maintenant, je veux vous parler de la clinique de la docteure pédiatre Julie Saint-Pierre. Docteure Saint-Pierre est directrice du Centre d'excellence en obésité infantile au Québec. Et en février dernier, on l'avait interviewée ici parce que tout le financement était remis en cause par le gouvernement du Québec et ça voulait dire la fermeture de sa clinique. Finalement, la ministre Mécan, à l'époque, était intervenue et ça a permis quand même de pouvoir garder la clinique ouverte puis traiter les enfants. Puis le problème de l'obésité chez les enfants puis chez les ados est un problème grave. Puis on le voit pour le dans le cas de la pandémie, quand on parle des gens avec des maladies chroniques. Donc, c'est sûr que cette clinique aide beaucoup d'enfants, beaucoup d'ados dans les circonstances. Depuis le mois de mai, On sait très bien que l'obésité s'est ajoutée aux facteurs de risque importants pour ce qui est de la COVID. Lors, et je cite Dr Saint-Pierre, là, « Lors de la pandémie, nous avons redoublé d'efforts, rejoint encore plus de familles vulnérables par téléconsultation. Malgré tout ça, les inégalités sociales ont augmenté. Nous avons même pris en charge des enfants qui n'avaient même plus de parents pour prendre soin d'eux. Dans un camp, programme de saines habitudes à l'été, avec un grand succès. » Et là arrive le mammouth. « Depuis juillet, j'ai parlé et écrit à pas moins d'une douzaine de personnes différentes au ministère de la Santé. Aucun retour. Zéro. » J'aimerais savoir la liste des gens à qui elle a écrit. « De nouveau, nos familles font face à l'inconnu. Des centaines d'enfants et d'adolescents risquent encore une fois de se retrouver sans équipe médicale et sans traitement. Et s'il n'y a pas un signe quelconque, il y aura fermeture le 31 décembre prochain. Et donc, perte de service pour des enfants qui sont actuellement pris en charge. Ça se peut pas, là, que tu écrives et tu n'as même pas une réponse. » À 10 personnes, encore une fois, le mammouth à son meilleur. C'est un autre exemple où ça se perd. Puis là, vous allez me dire la COVID a le dos large, là, parce qu'il y a d'autres choses que la COVID. Il y a des cas comme ça, puis il y a des patients aussi qui sont en attente pour des chirurgies. Donc, on va parler avec Dr Saint-Pierre un peu plus tard ce matin. Dans la presse, on nous parle de l'UPAC qui repart à neuf. Paraît-il qu'ils ont l'intention... D'abord, ils ont changé de logo. Et aussi, ils vont suivre les recommandations du comité de surveillance pour arrêter l'hémorragie et faire en sorte que ça soit plus stable. En un mot, l'UPAC va devoir nous convaincre qu'elle a encore son utilité. Il va falloir surtout aussi qu'on fasse la lumière sur ce qui s'est passé. Et c'est tout le projet A puis le projet Serment, là, sur les fuites. J'en ai parlé après le jugement dans l'affaire Normando-Côté, là. Il y a bien des choses qu'on ne peut pas dire, là. Parce que la justice nous empêche d'aller plus loin. Mais disons qu'il y a une série de scandales dans ça, là, que ça sent pas bon, là. Alors, va être intéressant de voir quand même là, cette volonté de l'UPAC, mais disons, pour convaincre la population là, que l'UPAC, c'est encore utile, je pense que les marches sont quand même hautes. Également, ce matin, il y a ce dossier dans la presse concernant l'immobilier résidentiel. On sait que depuis la COVID, là, c'est la folie furieuse pour les gens qui veulent, dans certains cas, là, partir en région, partir sur le bord des lacs, partir en forêt et quitter la ville. Puis en même temps, la pression sur les prix, où les gens disent, ben, c'est le temps de vendre. C'est peut-être moins le temps d'acheter. Et là, on raconte le cas du village ou la ville de Saint-Donat. Et on part de l'histoire d'un couple qui habitait Montréal pour aller, donc, qui ont vendu, sont allés s'installer à Saint-Donat. Ils sont locataires, puis ils vont devenir propriétaires. En 3 mois, de juin au mois d'août inclusivement, 75 familles du Grand Montréal ont acheté une propriété à Saint-Donat. C'est quand même du monde, là. Et ce qu'on remarque, c'est que c'est devenu comme un pôle d'attraction. Il y a tout le télétravail, puis il y a évidemment l'intérêt là, de se retrouver ailleurs qu'en pleine ville. Effet COVID. Mais Saint-Donat, c'est un exemple. Je peux vous donner des exemples dans également les cantons de l'Est, l'Estrie, puis les Laurentides en général. Ça fait le tour de la revue de presse. Il est 6h22. C'est quoi le problème au métro, monsieur?